Il est 19h sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est Radio Camping.
Dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Et toi, si tu étais président, qu'est-ce que tu ferais ? C'est Pénélope Bagieux, dessinatrice bien connue pour ses infographies rigolotes, surtout sur le climat, qui a posé cette question à des jeunes. Et elle précise, pas des jeunes de 25 à 35 ans, mais des vrais jeunes, comme elle les appelle, nés en 1998, qui ont 18 ans. Ça calme. En tout cas, quand on leur pose la question « Et toi, si tu étais président, qu'est-ce que tu ferais ?» Ça donne des préoccupations de jeunes, quoi. Par exemple, on a « Donné des vrais cours d'éducation sexuelle à tous les jeunes ». Ou alors légaliser le cannabis et donc créer une nouvelle source de revenus pour l'État. Ou bien raser des barres de HLM et mettre des maisons individuelles à la place. Bon, là je suis un peu dure, ça fait un peu trop jeune, mais il y a aussi des propositions plus adultes, on va dire. Comme diminuer le salaire des ministres à 2 fois le SMIC pour faire le tri et voir qui est réellement motivé. Imposer le CV anonyme sans photo et sans genre. Ou encore repasser au septennat pour les présidences. Comptabiliser le vote blanc, diminuer le nombre de députés, autant de bonnes idées auxquelles on pense depuis longtemps, mais oui, mes chers politiciens, pourrions-nous de temps en temps revenir à des décisions plus intéressantes que celle d'interdire ou pas le burkini, par exemple ? Beaucoup de jeunes répondent aussi que s'ils étaient présidents, ils démissionneraient parce que sinon, ils auraient les mains liées et ils ne pourraient pas agir. Ils admettent aussi ne rien attendre de l'élection en 2017. On espère quand même que ces petits jeunes resteront attachés à leurs convictions et pourront un jour les défendre. Défendre leurs convictions, c'est ce qu'ont fait nos 3 invités présents ce soir, en pensant que d'autres modes d'alimentation étaient possibles. Et nous allons discuter de nouvelles façons de s'alimenter.
Radio Camping Paris. Du lundi au jeudi, cet été, de 19h à 20h.
Nous allons donc discuter de nouvelles façons de s'alimenter ce soir et au menu, on parle de véganisme, notamment avec Jean-Benoît Robert. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans le cadre du festival Smile, le Vegan Pop Festival qui se déroule de vendredi à dimanche au parc de la Villette.
Exactement.
Et on parle également de végétarisme en recevant, avec notre plus grand plaisir, Élodie Vieille-Blanchard, présidente de l'Association Végétarienne de France.
Bonjour.
Bonjour. Et nous recevons également Lorraine. Bonsoir Lorraine.
Bonsoir. Moi, j'ai pas droit à mon nom de famille.
Pardon. Tu t'appelles Lorraine l'avocat. On est d'accord. Désolé.
L'avocat.
Tout à fait.
Ça part bien.
Tu n'as pas le droit à ton nom de famille parce que bon, tu es plus familière de Radio Campus Paris, donc on te connaît bien. Mais en tout cas, tu es aussi journaliste pour le web média Reporter et auteur de l'article. Voici pourquoi je remange de la viande. Et c'est pour cela que tu viens parler ce soir.
Exactement.
Et à mes côtés, il y a aussi Clara, qui nous parlera de guillotine à saucisson.
Eh oui.
Et Jonathan, au platine, qui nous passera du bon son. Bonne soirée à tous. Alors, Jean-Benoît Robert, donc on va commencer par parler donc de ce festival. Vous êtes cofondateur de l'association Smile, qui s'est créée dans l'optique d'organiser le festival du même nom. Et qui se passe ce week-end donc au parc de la Villette. Alors sur quelles idées justement repose votre association ? Sur quoi est-ce qu'elle s'est formée ?
Alors l'association elle est clairement là pour créer le festival, hein. C'est les organisateurs du festival. Et le festival c'était l'idée de mélanger vraiment une approche très pop et souriante du véganisme avec toute cette culture végane qui est la nôtre. Donc c'est arrivé avec de la bonne musique, des bons plats, des ateliers pour les enfants, pour les adultes. Voilà, dans le cadre de la Villette, pendant 3 jours.
Les premières idées, c'était avant tout plutôt le véganisme ou c'était avant tout plutôt la culture pop, justement ?
Vraiment les deux. En fait, les trois cofondateurs de ce festival, on est tous les trois à la fois musiciens et véganes. Donc les deux approches nous ont paru totalement naturelles. Il se trouve que cette initiative, aujourd'hui, elle n'existe pas. Mais c'est vraiment là-dessus que nous, on a voulu aller. C'était pas du tout quelque chose de prémédité. Il n'y a pas un plus que l'autre. C'est vraiment les deux autres. Je pense qu'on peut être vegan et écouter la bonne musique. On peut être vegan et manger des bonnes choses. Être vegan et se passionner pour des conférences. C'est vraiment le but de ces trois jours à la Villette.
Alors, comment vous, est-ce que vous définissez justement être vegan et le véganisme?
Je pense qu'il y a autant de définitions que d'individus. Elodie, je pense, est bien mieux placée que moi pour en parler. Moi, ma définition de véganisme, c'est refuser l'exploitation animale. Donc, c'est pas uniquement la nourriture, c'est refuser d'aller aux zoos, c'est porter du faux cuir, c'est manger des choses délicieuses, mais dans lesquelles il n'y aurait que des végétaux.
Elodie, c'est à peu près la même définition ou avec des choses différentes pour l'Association végétarienne de France ?
Oui, bien sûr. L'idée, c'est de refuser l'exploitation des animaux dans tous les domaines de la consommation. Dans la définition du véganisme, il y a aussi l'idée de faire de son mieux. En fait, on vit dans un monde qui est profondément carniste. On trouve des morceaux de corps d'animaux à peu près partout, dans les médicaments, pour clarifier le vin, et donc on en trouve dans le vinaigre. Enfin, c'est un petit peu compliqué, donc il y a l'idée que, d'une certaine manière, on fait de notre mieux, parce que peut-être qu'on va consommer d'une manière ou d'une autre, ou dans les produits qu'on va acheter, je ne sais pas, il y aura de la colle qui sera faite avec du poisson, donc on ne peut peut-être pas à 100% éviter de consommer des produits issus de l'exploitation des animaux, mais on va déjà dans cette direction, on le dit. Et c'est un mode de vie qu'on essaie de mettre en avant et de faire reconnaître.
Alors, on va aussi expliquer pour nos auditeurs à quoi ressemble ce type de régime. Donc, d'un côté, le régime végétarien, d'un côté, le régime végétalien, plutôt, ou vegan, mm-hmm. on va dire. Justement, un végétarien donc, ne mange aucune chair animale, donc pas de viande, pas de poisson. Et un végétalien ou un vegan ne mange aucun produit issus d'origine animale, pour le coup.
Tout à fait.
Vous êtes plutôt d'accord avec ça peut aller loin, c'est-à-dire qu'en fait, le vegan, c'est pas seulement la nourriture, c'est pas seulement l'alimentation, ça va dans d'autres domaines de consommation.
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que, par exemple, en langue anglaise, il n'y a pas de traduction pour le mot végétalien, c'est vegan directement. Il n'y a que les Français qui font une différence entre végétalien et vegan. Je pense qu'aussi, il y a l'histoire qui est passée par là. Je pense que la première définition du végétarien, c'était comme ça on l'indique, ne manger que des végétaux. Il se trouve qu'on a une culture extrêmement carnée qui nous a fait réintroduire un peu malgré nous dans des définitions du lait, des œufs, même il y en a qui se disent végétariens mangeant du poisson. Je pense que tout ça c'est un peu la même famille et qu'on parle tous un peu la même chose et qu'on tend vers cette direction qui est le fait de se régaler, parce qu'il y a des choses, on va certainement parler, mais il y a des choses absolument délicieuses, sans souffrance animale. Tout simplement, et en bonne santé.
Et alors justement, à quoi ça ressemble ce type de régime? Qu'est-ce qu'on mange quand on est végétalien, déjà? Parce que là, on part vraiment plutôt dans l'extrême. Mm-hmm. Alors qu'est-ce qu'on mange à la place de la viande?
Alors on part pas dans l'extrême, on part dans le véganisme. Encore une fois, c'est vrai qu'on est dans un mode carné, hein, donc on peut voir ça de manière assez éloignée par rapport à notre culture d'aujourd'hui. Manger végétalien, c'est manger des végétaux. Tout simplement. Il ne faut pas oublier qu'un couscous, la définition première du couscous, c'est sans la viande. Il y a énormément de choses qui se font à l'origine sans viande. J'avais des amis, il n'y a pas très longtemps, invités, et je leur disais, tiens, on va se faire un bon chili. Et ils rigolent tous, mais c'est pas un chili. Je dis, si, c'est pas un chili grand carré, c'est un chili, c'est la vraie recette. Donc on mange comme tout le monde. Il faut savoir que l'alimentation a extrêmement changé en 100 ans. On a l'impression de manger la viande depuis la nuit des temps. Il y a 100 ans, 80% des protéines animales, des protéines que nous mangeons, étaient végétales. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. On mange aujourd'hui énormément de protéines animales, ce qui n'était pas le cas il y a 100 ans. Donc le régime végétal est un régime qui est totalement naturel et bon. Super bon.
Alors, on va en reparler juste après. Et justement, Élodie Vieille-Blanchard, d'après vous, en fait, alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'une personne qui était viandarde, on va dire, se met à être végétarien un jour comme ça?
Je pense que les raisons, elles sont toujours les mêmes et les sondages en attestent, en fait. Pourquoi on devient végétarien? Pourquoi on devient vegan? La première raison, c'est l'éthique animale, c'est le refus de l'exploitation des animaux. C'est vrai que quand on s'informe, quand on sait d'où vient la viande, quand on sait d'où vient le poisson, d'où viennent les produits laitiers, d'où viennent les œufs, on se rend compte qu'il y a une réalité qui est bien peu reluisante. Donc c'est assez facile finalement d'être convaincu du bien fondé du végétarisme et du véganisme.
Donc il manque de l'information en fait finalement? C'est qu'on n'est pas assez informé?
Je pense que l'information, c'est vrai qu'elle est difficile d'accès. C'est difficile d'accéder aux élevages, c'est difficile d'accéder aux abattoirs. L'association L214 qui mène des enquêtes dans les abattoirs, son travail est rendu assez difficile. Elle a des procès. Il y a des lois dans différents pays qui interdisent en fait de pénétrer dans les élevages. Une commission d'enquête sur les abattoirs a été créée récemment, mais les enquêteurs sont jamais vraiment les bienvenus en fait quand ils débarquent dans les abattoirs. Donc je crois que cette réalité, quand on en prend conscience, quand on prend conscience de l'impact aussi écologique de la production de viande, de lait et d'œufs, quand on prend conscience aussi de la réalité en termes de santé, on a beaucoup, beaucoup de raisons de devenir végétarien ou végane. Donc ces raisons, elles existent depuis longtemps. Maintenant, c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, on a de plus en plus accès à des informations sur les réseaux sociaux. C'est facile de voir des vidéos. C'est facile aussi de trouver, par exemple, des infos sur la nutrition et la santé. C'est de plus en plus facile de trouver des recettes. Il y a une explosion des blogs végétariens et surtout des blogs véganes. Donc il y a de plus en plus de raisons, en fait, de devenir végétarien ou végane. Et je pense qu'il y a plein de gens qui peut-être étaient des végétariens ou des véganes en puissance sans le savoir et qui tout d'un coup ont accès à toute cette information et se disent pourquoi pas, ça a l'air drôlement sympa, c'est un mode de vie qui est tout à fait satisfaisant sur le plan éthique, donc allons dans cette direction.
Oui, justement, il y a de plus en plus d'images qui montrent le caractère massif, violent de l'abattage des animaux, de plus en plus de vidéos, de plus en plus de documentaires sur le sujet. Rien qu'hier soir encore, il y avait un Cache Investigation qui montrait sur le jambon. Est-ce que vous pensez vraiment que ces vidéos, ces images ont de l'effet sur...
Je pense qu'elles ont un effet incroyablement profond, puissant, durable. Je crois qu'on oublie, en fait, on a tous une espèce de représentation, c'est un peu comme dans Matrix, en fait, on a tous une représentation de la réalité des élevages et des abattoirs. Les publicitaires nous encouragent à imaginer ces lieux comme des lieux tranquilles, pittoresques. C'est pas le cas. Il faut savoir que tous les animaux qui viennent d'élevages bio, qui viennent de petits élevages fermiers, ils sont envoyés à la mort, ils ne veulent pas mourir. C'est violent, ils se débattent, c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir. Et puis quand on est face à cette réalité, il faut bien en faire quelque chose. Et quand on sait qu'on n'est pas du tout obligé de consommer des produits animaux, la décision, l'évolution, elle se fait un petit peu naturellement.
Donc on voit qu'il y a des enjeux écologiques, des enjeux aussi liés à la santé pour tout ce qui est viande. Quels sont ces enjeux santé qui sont quand même importants et qui sont convaincants, en tout cas pour les gens qui veulent se mettre au végétarisme?
On a de plus en plus d'études, en fait, un petit peu de statistiques globales sur la santé des végétariens et des véganes. Donc il y a une étude qui a fait date, par exemple, qui a été publiée en 2013. Et elle montrait que chez les végétariens, chez les ovolacto-végétariens, il y avait 9% de mortalité en moins si on la comparait à la mortalité chez les omnivores. Et chez les végétaliens, il y avait 15% de mortalité en moins. Donc c'est une étude qui a été menée sur un échantillon de 70 000 personnes aux États-Unis qui ont été suivies, je crois, pendant 6 ans. Donc c'était déjà quelque chose d'assez convaincant. On a beaucoup d'informations aussi sur un certain nombre de maladies qui sont souvent des maladies de civilisation. Comme certains cancers, on a des éléments par exemple sur le cancer colorectal, le cancer du sein, le cancer de la prostate. On a des éléments sur le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité. Donc c'est vrai qu'on commence à connaître de mieux en mieux tout ça, peut-être pas beaucoup en France, mais en tout cas aux États-Unis, il y a vraiment tout un savoir autour de la nutrition et de la santé qui est de plus en plus accessible.
Alors est-ce que ça veut dire tout ça qu'il faut être végétarien vraiment dans son ensemble, c'est-à-dire est-ce qu'il faut vraiment s'arrêter de manger de la viande ou est-ce qu'on doit surtout réduire la viande? Parce que c'est vrai qu'un végétarien strict, entre guillemets, s'interdit de manger du poisson et de la viande.
Alors je crois qu'il faut faire attention aux mots. Je crois que moi je suis végane par exemple, Jean-Benoît aussi, je crois qu'on ne s'interdit pas quelque chose, on a tout simplement absolument pas envie de consommer des produits animaux. On vit très bien sans produits animaux, on mange des choses qui sont bonnes, on se sent bien. Je sais pas, on s'interdit pas non plus d'aller violer quelqu'un parce qu'on n'a pas envie de le faire, parce qu'on est convaincu que c'est pas bien et que c'est pas utile et qu'on tirerait pas de satisfaction de ça. Maintenant, je dirais que selon les motivations, on va plus ou moins loin. C'est vrai que si on veut être en meilleure santé, si on veut diminuer son impact écologique, réduire sa consommation de produits animaux, ça a véritablement un effet. Si on a des motivations éthiques qui sont des motivations de refus de l'exploitation des animaux, assez naturellement, on va plus loin et on décide de s'abstenir vraiment de consommer des produits animaux.
Donc chacun ses motivations pour devenir végétarien, végétalien, moins manger de viande. Toi, Lorraine, c'est un voyage au Mexique justement qui t'a ouvert les yeux sur l'élevage industriel et qui t'a incité à devenir végétarienne. Mais c'est un autre voyage qui aussi t'a fait changer d'avis et qui a mené à l'écriture de cet article qui s'appelle « Vous voici pourquoi je remange de la viande » qui a été publié en octobre 2015, maintenant ça fait déjà une année, pas bientôt, sur Reporter, donc le web média. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup ce changement finalement d'opinion sur le sujet ?
Alors, déjà, le changement dans un sens de devenir végétarienne donc, a eu lieu après, effectivement, même pendant un voyage au Mexique, il y a bientôt quasiment 8 ans. C'était effectivement, je mangeais déjà assez peu de viande, et en fait, d'avoir sous mes yeux des élevages intensifs, notamment de bovins, dont la totalité de la viande était exportée aux États-Unis, juste à côté de communautés locales, rurales, indiennes, mayas, qui en fait souffraient de malnutrition, voire de sous-nutrition, parce qu'ils n'avaient pas accès aux bonnes terres, que les bonnes terres étaient réservées à l'élevage intensif. Donc, quand on a une telle vision face à soi, enfin, bon, moi, ça m'a vraiment énormément choquée. Et puis, je pense que finalement, le végétarisme ou le véganisme est une manière personnelle de pouvoir répondre à toute cette absurdité, quoi. C'est quelque chose qui est à notre portée de chacun, et on se sent acteur de notre vie, et on peut faire ça. Et donc, du coup, je suis devenue végétarienne à ce moment-là, sans souci. Et effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit avant sur le fait que c'est pas compliqué, et on n'est pas du tout triste en étant végétarien ni végétalien. Donc, c'est pas cette raison-là qui m'a fait remanger de la viande. Je suis repartie en voyage, donc là, il y a un an et demi, sur un autre projet, plus de documentaires radio auprès de paysans en Europe. Et donc, du coup, j'ai rencontré beaucoup de petits éleveurs, enfin petits, après toute la question est toujours sur le mot petit, mais bon, des éleveurs. Et petit à petit, au fur et à mesure des discussions, j'arrivais effectivement en disant que ben, je ne mangeais pas de viande, au fur et à mesure des discussions avec eux, de voir leur pratique agricole. Je ne suis pas tout à fait d'accord que les élevages ne sont pas visitables en France. Moi, j'en ai visité un certain nombre, enfin, au moins une dizaine en France, en Italie, en Roumanie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à l'intérieur de moi, ce que je voulais combattre, c'était l'élevage industriel. C'était toutes les dérives qui étaient liées à l'élevage industriel. Et petit à petit, au fur et à mesure des discussions et de mes rencontres, j'ai acquis la conviction que une forme d'élevage et certaines pratiques d'élevage contribuaient à une forme d'écologie, notamment parce que les pâturages en haute montagne peuvent permettre de garder des paysages ouverts, parce que, mine de rien, le fumier animal permet de garantir une forme de fertilité des sols, que l'élevage dans certaines zones, c'est la seule chose qu'on peut faire pour avoir de la nourriture. Enfin,
l'élevage est nécessaire, les animaux sont nécessaires aussi à la vie quotidienne.
Dans certaines zones, dans certaines conditions, et que finalement, si je voulais me battre contre l'élevage industriel, c'était pas forcément en refusant complètement de manger de la viande, mais en choisissant ce que je mangeais comme viande. Donc je suis revenue avec cette idée-là, avec l'idée que quand on sait d'où vient la viande, comment elle a été élevée, je mets entre parenthèses la question, pour l'instant, hein, on y reviendra, de la question de l'abattage, parce que ça reste en France un gros problème, mais en tout cas, on peut savoir où est produite la viande et comment elle est produite, et que du coup, dans ce cas-là, eh ben, oui, moi j'accepte et je trouve que ça fait partie de mes convictions de manger de la viande.
Et tu es donc devenue flexitarienne.
Oui, il paraît qu'on dit comme ça.
C'est ce que nous allons voir avec Clara après une petite pause musicale sur Radio Campus Paris. Et on s'écoutait No Matter de Whitney sur Radio Campus Paris.
Ça, c'est du tout bon, ça. Hein, ah oui, je suis un peu de la partie, c'est mon métier. Ça. Hein, ouais. T'as une belle couleur de la peau, là. Du rose au pourpre. Bonne texture, un peu fibreuse. Marina Dallo. Ça doit être fumé au bois d'Applewood, ça. Ou à la Hickory, je me trompe, non?
Je sais pas, j'ai pas fait un master en jambon. Hein, c'est... Vous avez du temps libre en ce moment, vous, hein?
Ah, pas du tout, j'ai plein de choses à faire. Hein. Ouais. Non, mais je pensais que vous aviez l'amour du travail bien fait.
Au SMIC, l'amour du travail bien fait, vous savez, vous vous soulevez. Hein.
Oh, bah, soyez poli, monsieur.
Je suis poli, je t'emmerde.
Ouais. Connard, quand on a la chance de travailler le jambon, on s'intéresse au moins à ce qu'on fait. Je casserais bien ta petite gueule de je m'en foutisse, toi, si elle est pas ma femme.
Ta femme? Hey. Pourquoi t'as une femme, toi?
Quoi?
La gueule que t'as une femme? Elle est où ta femme? C'est qui ta femme?
Connard, bah, t'as qu'à venir faire un tour, tu vas voir.
Connard.
T'as rangé ta gueule, toi, avec ta casquette.
Connard.
Quoi?
C'est toi qui es un gros connard.
Quoi?
Connard.
Oui, t'as facile à dire derrière.
T'as
pourquoi?
Un peu de la chance,
hein.
Et c'était une scène au supermarché dans le film Mammouth avec Gérard Depardieu, vous l'aurez peut-être reconnu. Alors Clara, tu voulais nous raconter une anecdote, je crois.
Oui, alors moi en fait, je vais vous raconter mon week-end dernier. Je vais à la pendaison de crémaillère d'un copain. La fête a déjà commencé et quand je suis arrivée, je vois tout le monde qui est autour d'une petite table et qui, en plein milieu, il y avait un objet qui captait l'attention de tout le monde. C'est un espèce de gros objet en bois, tout en hauteur, avec une grosse lame qui s'abaissait sous les applaudissements de tout le monde à chaque coup sec. En fait, on aurait dit une sorte de guillotine. Mais attention, pas n'importe quelle sorte de guillotine, une guillotine à saucisson.
Ooh.
Et pour couper le saucisson de manière efficace... C'était l'euphorie collective dans toute la pièce, c'était l'attraction générale. Tout le monde jouait à couper sa rondelle, tout le monde était à la queue leu leu pour essayer. Moi aussi, je veux couper ma tronche. Waouh, mais ça va être trop cool comme cadeau de Noël pour mon père. Oui, je ne sais pas pourquoi cet objet avait un succès fou chez toute la gente masculine de plus de 50 ans.
Oui, c'est bizarre. Vraiment.
Et du coup, il y a un moment gênant où on se retourne vers toi et on te demande « Et alors, tu veux pas essayer toi aussi de couper ta tranche de saucisson ?» Et là, tu réponds « Ah non, en fait, ça me fait pas trop envie, je mange pas trop de viande, en fait, ça me fait pas trop rêver. » Et là, on te demande « Mais t'es végétarienne ?»« Non, mais disons, j'en mange assez peu, enfin, c'est vraiment pour d'autres occasions, quand je sais d'où elle vient, tout ça. » Et là, bah, « T'es flexitarienne alors ? Flexi quoi ?» Et du coup, là, c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce que ça voulait dire, flexitarien.
Alors, qu'est-ce que c'est, flexitarien ?
Alors, du coup, j'ai appris ce mot. En gros, c'est quand tu manges pas beaucoup de viande, t'en manges moins, mais quand tu en manges, tu sais d'où elle vient et que c'est de la bonne viande, tu sais où elle a été produite. Et du coup, j'ai appris que j'appartenais à cette catégorie de gens, les flexitariens, à la fois flexibles et végétariens. Puis, la conversation a enchaîné direct sur la lâcheté de cette position d'après toute l'assemblée, qui se veut à la fois bien pensant mais sans contrainte, une sorte de végétarien bas de gamme, mais qui n'y arrive pas. Une sorte de bobo bien sympa, mais qui en fait fait pas bouger grand-chose. Et en plus, d'après tout le monde, je faisais culpabiliser toute la soirée. Genre, celle qui ne veut pas manger de viande,
drôle, quoi,
qui va faire la morale et qui fait retomber la mauvaise conscience sur les autres. En gros, j'étais considérée comme la relou de la soirée, celle qui ne sait pas s'amuser avec une guillotine à saucisson.
Alors là, la soirée prend un mauvais tournant pour toi, je crois.
Bah, à vrai dire, alors que je commençais enfin à me reconnaître sous ce nom générique que je connaissais pas il y a 10 minutes et que je commençais presque à défendre ce type de consommation responsable et à me sentir appartenir à la grande corporation des flexitariens, je me suis rendu compte que j'avais réussi quand même à détourner petit à petit l'attention de l'objet macabre. En fait, j'étais peut-être devenue la relou, mais j'avais le mérite d'avoir fait parler de l'objet et d'enclencher une micro-conversation autour de la guillotine à saucisson. Et du coup, la guillotine a changé de statut. Elle est passée de cette espèce d'objet d'amusement macabre où on tue deux fois d'affilée le pauvre cochon dans un espèce de grand élan sordide, à un lieu de cérémonie où tout le monde prenait plus de soin dans son geste de bourreau et se rappelait soudain de la portée symbolique du geste. Bon, la morale, c'est pas qu'il faut connaître le pire pour aller de l'avant, mais que le fait que de se poser comme flexitarien, c'est-à-dire de pouvoir manger deux saucissons mais de le refuser, permettait en fait de transformer cette fête macabre en une fête consciente. Et d'un seul coup, je vous jure, cette fameuse table du bourreau s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus cérémonial, voire mystique. Et oui, le flexitarien se fait charrier, mais il a quand même le pouvoir de faire prendre conscience de ce que représente véritablement une guillotine à saucisson. Et ça, c'est déjà un début.
Merci Clara pour cette présentation de la guillotine à saucisson, très intéressant.
Tout le monde ne sait pas que ça existe.
Dit, on pourrait aussi mettre des carottes.
Exactement. Mais c'est mieux à personne dans la soirée de mettre une carotte sous la guillotine à saucisson.
En fait, c'est une guillotine. On peut mettre des courgettes, on peut mettre des légumes aussi.
Guillotine, la gueule, tu vois. Donc il y avait quand même l'idée de couper un truc bien.
D'accord, l'intention derrière. Okay. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Donc on est avec Jean-Benoît Robert, cofondateur du festival Smile, vegan pop festival qui se déroule donc ce week-end au Parc de la Villette, et Élodie Vieille-Blanchard, présidente de l'association végétarienne de France. Et on parle de viande ce soir sur Radio Campus et de consommation de viande. Justement, on parlait un petit peu tout à l'heure avec Lorraine, avant la musique, de l'élevage industriel. Justement, cet élevage industriel, on entend souvent dire que de toute façon, il faut un peu d'industrie pour pouvoir répondre à la croissance de la population mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il ne faut pas quand même un peu d'élevage industriel pour la viande ?
Bah, on peut se situer à l'échelle de notre pays. En fait, la consommation de viande en France, elle a complètement explosé après les années 50. On a importé beaucoup de méthodes industrielles venues des États-Unis. C'est l'INRA en fait, qui a joué ce rôle en fait, pour implanter certaines méthodes en France, comme l'insémination artificielle, par exemple, ou tout un travail autour des rations, avec l'idée que les animaux étaient comme des espèces de machines à convertir des protéines végétales en protéines animales. La population française, elle a peut-être un peu augmenté, mais pas énormément. Donc, je pense que c'est surtout nos modes de vie qui ont profondément changé en France. Mais les modes de vie changent profondément aussi en Chine, en Inde, où la consommation de viande, elle augmente énormément. Donc, l'élevage industriel, est-ce qu'il est nécessaire ? Bah, ça dépend de quelle société on veut construire. Ça dépend de comment on veut se nourrir. C'est certainement pas une obligation. C'est une question de modèle de société. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a le choix. Voilà. Souvent, en fait, on nous présente, je ne sais pas, des espèces d'évolutions inéluctables en nous disant les Chinois veulent de la viande, par exemple. Je pense que les Chinois, ils consomment aussi ce que les industriels les encouragent à consommer. Les Français mangent aussi ce que les industriels, ce que les collectivités, par exemple, scolaires, les encouragent à consommer. Donc, je crois qu'il faut ouvrir le débat et se demander de quel monde est-ce qu'on veut.
Et Lorraine, toi, finalement, aujourd'hui, quand tu consommes de la viande, qu'est-ce que tu regardes ? Comment est-ce que tu consommes de façon responsable, on va dire ?
Alors déjà, c'est très compliqué de le faire à Paris parce qu'on n'a pas forcément accès c'est un peu plus compliqué d'avoir accès à de la vente directe, par exemple. Mais voilà. Effectivement, du coup, ce que je regarde, c'est d'où ça vient, c'est qui l'a produit, c'est... quand on va sur le marché, sur un marché de producteurs, c'est quand même plus facile parce qu'on rencontre directement les éleveurs, on peut discuter avec eux.
Donc aller sur les marchés déjà, essayer d'aller plus souvent au marché qu'au supermarché en fait. Ça peut être une première chose.
De manière générale, enfin moi je pense qu'on est peut-être tous d'accord avec ça. Enfin moi dans ma vision entre guillemets du coup, dans ma conviction de lutte entre finalement une agriculture paysanne et une agriculture industrielle, ça s'applique pas que à la viande, c'est-à-dire que être végétarien ou végétalien et continuer à aller acheter ses fruits, ses céréales en supermarché, que ça vienne de fermes industrielles ou d'exploitations industrielles, pour moi c'est contre-productif. Ben, voilà, je me place pas sur le plan de l'éthique animale, je me place d'un point de vue, je ne sais pas comment on peut appeler ça, écologique, social, économique, mais pour moi, c'est...
C'est l'alimentation en général.
Voilà, de la même manière que l'agriculture industrielle considère les animaux comme des productions, comme des machines, comme de la production animale, et ben, c'est la même chose pour les végétaux, quoi.
Donc voilà, et vous
je vais juste quand même rajouter quelque chose, c'est par rapport à la viande, on parle d'écologie, on peut quand même cataloguer la viande de catastrophe écologique. Élodie est plus forte que moi sur les chiffres, mais pour produire un kilo de céréales, je crois que c'est jusqu'à 2000 litres d'eau. Un kilo de viande, oui, ça va jusqu'à 100 000 litres. Quoi. Donc je pense que bio ou pas bio, il ne faut pas oublier que... De toute manière, on va tous finir par être végétarien parce que la planète le nécessite. Et des personnes comme Jacques Attali eux-mêmes le disent et ils sont très éloignés du Vegan Pop Festival, par exemple.
Oui, d'accord. Donc oui, il faut rappeler aussi les impacts environnementaux finalement de la production de viande. Est-ce qu'il y a des viandes qui sont un peu moins impactantes justement en termes environnementaux ?
Mais je crois que le débat n'est même pas là. Je pense qu'on peut se dire aujourd'hui, est-ce qu'il est utile ou pas de manger de la viande ? Je pense qu'on est très nombreux à y avoir répondu. Et maintenant, je pense qu'il y a une étape qui est extrêmement intéressante, c'est de se dire aujourd'hui, on peut vraiment se faire plaisir en mangeant autre chose que de la viande. Il y a plein de choses. On a vraiment vu le marché évoluer en 20 ans. Il y a 20 ans, effectivement, il y avait une offre qui était assez limitée. Aujourd'hui, il y a des restaurants vegan et végétariens qui s'ouvrent tous les mois à Paris et qui proposent des choses absolument délicieuses. Je pense qu'il y a une vraie alternative qui existe aujourd'hui et ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça.
C'est vrai que nous sommes en France assez attachés à notre régime alimentaire, viande et accompagnement.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en France, depuis les années 60, le légume ne s'appelle plus légume, mais accompagnement. Culturellement, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on cuisine magnifiquement la viande. Moi, je suis le premier à le reconnaître, même si je ne mange pas.
Bon gigot d'agneau. Voilà.
Et que du coup, on a complètement laissé de côté la gastronomie des légumes. Alors, heureusement, il y a quelques grands chefs qui s'y remettent. Et la culture végétarienne et végane aujourd'hui vraiment réhabilite cette gastronomie à partir du légume.
Les légumes, ça ne nourrit pas, pourra vous répondre.
Ben, je vous donne rendez-vous au Smile ce week-end. Vous allez vous régaler avec des hot dogs, des pizzas 100% véganes. Gourmande et on va prendre de la calorie.
En effet, voilà. Et bien, justement, le festival sera l'occasion de découvrir ces nouveaux régimes alimentaires dans lesquels, c'est vrai, on catalogue ça. On pense souvent qu'être vegan, finalement, c'est manger seulement des légumes, mm-hmm. c'est ne pas se remplir le ventre. C'est vrai qu'avec une entrecôte, là, on est repu. Donc, on aura des exemples de ce qu'on peut manger en étant
complètement
vegan.
Et puis, je pense qu'il y a une chose qui est assez amusante. On considère souvent que le véganisme, c'est quelque chose d'extrêmement diète, c'est trois graines, etc. Moi, j'ai eu un exemple, il n'y a pas très longtemps, je donne un concert, et donc dans les loges de Catherine, on m'amène un poulet avec des frites et de la salade. Je dis, non, excusez-moi, j'avais précisé vegan, etc. Ils reviennent en me disant, oh, excusez-moi, monsieur, très gentil en plus, excusez-moi, monsieur, ils avaient juste enlevé les frites. Il y a toujours le poulet, la salade. Donc, c'est vraiment la vision qu'on peut se faire du véganisme. Je dis, c'est gentil, mais moi, c'est plutôt le poulet qui me dérange. Les frites, ça me va très bien.
Et c'est vrai qu'on se dit, finalement, être végétarien ou être végane, c'est pas seulement supprimer la viande ou supprimer les produits d'origine animale, c'est en fait repenser toute son alimentation.
C'est rajouter autre chose. Sincèrement, je faisais, moi, on en parle avec des amis, je suis persuadé qu'on est, nous, véganes et végétariens, on a une alimentation bien plus diversifiée que nos voisins qui mangent leur steak et leurs frites tous les jours.
Donc avec des pois chiches, avec des légumineuses,
par exemple,
variées.
Mais il y a plein de choses, il y a plein de sortes de tomates, plein de sortes de pommes de terre, plein de sortes de haricots. Effectivement, vous citiez les légumineuses, c'est une source de protéines magnifique et puis d'un point de vue gustatif, c'est vraiment incroyable. Et puis, je pense que, enfin, moi, je fais partie des gens j'étais assez adepte de tout ce qui était un peu entre guillemets junk food, qui avait un côté très 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 ludique. Moi, aujourd'hui, je continue à manger hot dog. J'avais un deal dimanche chez mes beaux-parents. Je suis arrivé avec mon chorizo vegan. Voilà, je pense qu'on n'abandonne rien, on découvre autre chose.
En effet. Et alors, l'Association végétarienne de France, justement, vous propose de vous accompagner dans une alimentation végétarienne. Alors, en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, avec vous?
Alors, nous, c'est vrai qu'on est sur le terrain du plaisir, de la convivialité, de l'accompagnement. On pense que c'est vraiment très important d'aider au quotidien, de proposer des idées, de montrer que c'est sympa à tout le monde, c'est-à-dire les gens qui ont envie de devenir végétarien, de devenir vegan, mais aussi les gens qui se disent végé-fans, c'est-à-dire qui aiment bien cette cuisine. Donc nous, on a plusieurs programmes d'accompagnement. On a un programme qui s'appelle 1-2-3 Veggie, donc c'est un programme de cuisine. On a un site internet avec beaucoup de recettes qui sont toutes 100% végétales, qui sont créées, c'est des recettes originales qui sont créées par des blogueurs et des blogueuses partenaires. On a un programme de cours de cuisine, donc pour l'instant les cours ont lieu à Paris et à Lyon, mais on est en train de les mettre en place dans d'autres régions. Donc ça se fait en partenariat avec des magasins bio et on a des intervenants professionnels assez passionnés qui ont vraiment leurs pattes, c'est-à-dire qui ont vraiment leur façon de cuisiner avec leurs petites recettes qui font découvrir à des petits groupes en fait. Donc c'est des groupes de maximum 10 personnes. Donc l'idée c'est vraiment que ce soit convivial, c'est qu'on découvre ensemble comment on fait une mousse au chocolat sans œufs, comment est-ce qu'on prépare une blanquette de 7 ans par exemple, ou toutes sortes de choses comme ça. Et on a aussi un autre programme qui s'appelle Défi Veggie, donc c'est un programme un peu plus intensif. Donc là, c'est vraiment pour des gens qui veulent devenir végétariens ou vegan et qui le savent. Et en fait, on leur propose un programme en 3 semaines où ils vont vraiment essayer pendant 3 semaines de manger complètement végétarien ou complètement vegan.
Donc vous leur proposez des menus qu'ils peuvent faire chez eux-mêmes?
Alors, on leur propose toute une boîte à outils, mais surtout on les accompagne, donc ils ont des coachs, les coachs leur donnent plein d'idées, répondent à leurs questions, donc les questions ça peut être des questions d'ordre culinaire, d'ordre nutritionnel, ça peut être d'ordre social aussi, c'est-à-dire comme disait Jean-Benoît, bah, je suis invitée chez ma grand-mère, qu'est-ce que je fais, comment je réponds si on me pose une question, par exemple. On leur propose une conférence avec une diététicienne, on leur propose une conférence sur l'écologie, on leur propose plein de choses, en fait. Et l'idée, c'est qu'après les 3 semaines, bah, ils ne sont pas tout à fait pareils. Ils ont vraiment fait une espèce d'immersion dans un autre univers, dans un autre mode de vie. Et puis, en général, ça change leur façon de se nourrir.
Et sans avoir un coach, on peut aussi aller sur votre site, donc 123 Veggie, qui propose aussi plein d'astuces, plein de recettes pour se mettre au végétarien.
Tout à fait. Et on peut aussi prendre juste un cours de cuisine pour découvrir. On n'est pas obligé de se lancer tout de suite dans 3 semaines. L'important, c'est vraiment d'y prendre du plaisir, c'est d'avoir de la curiosité. Et puis voilà, de voir où est-ce qu'on a envie d'aller après.
Et vous avez de plus en plus de candidats, justement, qui s'inscrivent à ce programme ?
On a beaucoup de candidats. Bah, à chaque fois, ça se remplit. Donc, c'est vrai que c'est peut-être à nous d'en organiser plus. C'est souvent des gens assez jeunes, c'est souvent des filles.
Comme si les filles étaient plus préoccupées par ces choses-là que les garçons.
Et on se rend compte aussi pour le festival. Hein,
qu'il y a beaucoup de...
Ouais, beaucoup sur Facebook et Twitter, on voit que c'est les filles qui remontent beaucoup.
Oh. Girl power.
Ouais, c'est un peu pour ça qu'on l'a fait, en fait.
Oui, c'est ça.
On fait 3 garçons.
Ok. Très bien. Donc 1-2-3 Veggie pour retrouver des recettes, pour retrouver plein d'astuces pour se mettre soi-même au végétarisme. Et justement, si vous deviez donner un plat que vous faites, vous, personnellement, souvent, votre plat préféré en termes de cuisine végétarienne ou végétalienne ?
Moi, je cuisinais pas du tout, en plus, quand j'étais végétarienne, donc quand je mangeais. Et avec le véganisme, je me suis mis à cuisiner. Moi, ça va vous faire rigoler, mais un aliment que j'adore, c'est le tofu. Et je fais mariner mon tofu 2 jours avant dans une marinade à base de champagne, de moutarde à la truffe, d'huile de truffe et d'huile d'olive. Je le fais mariner, après je le fais cuire juste au four et je mets ça avec des pommes de terre et c'est magnifique.
Et donc on n'a pas besoin d'être un grand cuisinier pour faire ça ?
Si.
Ah,
bien sûr, vous êtes un très grand cuisinier pour faire
okay,
ça. Non, c'est extrêmement simple. extrêmement simple. Et franchement, ça fonctionne très bien. Et on a mangé ça, un énorme plat à deux avec un gros viandard en plus. Qui retrouve un peu les saveurs du foie gras.
Et qui a aimé le plat. Toi, Lorraine, tu as une recette en particulier ou...
Je réfléchis en même temps, je passe mon tour.
Ou alors c'est pain et houmous.
Moi j'adore l'houmous.
Ah ouais,
je pourrais manger l'houmous tous les jours.
Ah, l'houmous à l'ail noir, qui était une recette que j'ai inventée. Ah. Ça c'est génial.
Ah, d'accord.
C'est tout simple, un peu d'houmous, vous rajoutez de la crème fraîche, bien sûr, de soja, de l'ail noir et... incroyable.
On mettra cette recette en ligne sur le podcast. Comptez sur nous.
Ah bon.
Et Élodie ?
Alors moi j'ai une petite recette bien sympa qui plaît toujours beaucoup aux omnivores en général. C'est une recette de pâté végétal. Donc c'est comme une petite terrine en fait avec des graines de tournesol, de l'ail, de la sauce soja, des épices, des herbes. C'est vraiment très facile. On fait tremper des graines et ensuite on mixe plein de choses dans un blender. Ça fait une terrine avec un petit peu granuleuse en fait. On mange ça avec des cornichons et du pain et c'est super bon.
Et justement, en termes de restaurants, vous parliez tout à l'heure de restaurants à Paris, végétariens, végétaliens. Est-ce qu'on en trouve de plus en plus de ces restaurants-là ? Parce que c'est vrai qu'en mangeant à l'extérieur, finalement, on se retrouve à manger de la viande très facilement. Quand on va à la boulangerie, on a des sandwichs avec de la viande. Quand on va au restaurant, on a toujours sur la carte entrecôte, steak, frites, enfin voilà, le régime traditionnel. Est-ce qu'il y a de plus en plus justement de restaurants qui proposent ce genre de...
Oui, alors c'est vraiment en train de changer. On était là avec les bénévoles ce week-end et un de nos bénévoles nous disait c'est incroyable, je reviens de Berlin, j'étais dans un kebab, même le kebab qui était vraiment un tout petit kebab proposait une alternative non pas végétale mais végane. Donc on en est encore un peu loin en France. En revanche, effectivement, aujourd'hui il y a une offre sur Paris qui commence à se développer, mais ça reste encore assez compliqué de manger vegan dans un restaurant assez classique. Alors de plus en plus, hein, il commence à jouer le jeu, mais c'est pas encore la norme.
Voilà, et puis s'il le joue, voilà, il y a un plat, donc on n'a pas beaucoup le choix.
C'est ça, et les omnivores ont souvent du mal à comprendre, mais souvent ils me disent, mais t'as de la chance, il y a un plat pour toi. Bah, imaginez l'inverse, il y a juste un plat pour vous, tout le reste de la carte, vous pouvez pas en prendre. Non, c'est un peu triste.
Et on va s'écouter une musique sur Radio Campus.
Thank you.
on s'écoutait Nicolas Cruz, Cumbia del Olvido.
Radio Camping Paris.
Et le festival Smile, donc on en parle. À l'origine de ce projet, il y a donc trois amis, dont vous, Jean-Benoît, qui ont décidé de monter une association et un festival qui mêle le vegan et la culture. Donc on y trouve de la cuisine vegan. Voilà, on va faire la cuisine pour nous.
Avec des démonstrations, des ateliers.
Avec des démonstrations. Très bien. De la musique également, des ateliers pratiques, des débats, des tables rondes également. Alors, pourquoi, ma question est pourquoi avoir décidé d'associer ce monde vegan avec la culture ?
Déjà, dans beaucoup de pays, c'est des choses qui sont totalement admises et qui font partie de la culture américaine, de la culture anglaise. On parlait d'abattoir tout à l'heure. Paul McCartney est un vrai ambassadeur de la cause végane. On peut citer Radiohead, Moby. Ils sont très nombreux, en fait, à l'étranger, à mélanger culture pop et véganisme. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, nous, on est nous-mêmes et musiciens, et vegan, donc naturellement on s'est porté vers un festival comme ça. Il se trouve qu'en plus dans nos rencontres on a eu la chance de croiser toute l'équipe du Trabendo qui coproduit le festival avec nous, qui nous ont amené toutes ces connexions et musicales, puisque c'est eux qui ont géré toute la partie programmation, et c'est pour ça qu'on a une programmation qui est vraiment, moi je trouve génial, c'est vraiment la programmation que j'aurais aimé avoir un festival que je n'aurais pas organisé, et puis toute cette logistique au sein de la Villette, puisqu'on a la chance de faire ça dans un magnifique parc, qui est le parc de la Villette, qui était d'anciens abattoirs, donc on se dit que quand même l'histoire va dans le bon sens.
En effet.
Ouais, ça s'appelait la Cité du Sang, c'était surnommé comme ça, c'est encore marqué là-bas.
La Cité du Sang, la Villette.
Ouais, c'est assez terrible.
Il faudrait se pencher là-dessus, en effet. Oui.
Et voilà, on a vraiment voulu faire ça, du coup, dans l'enceinte de la Villette, parce que c'était un endroit qui était extrêmement convivial, et puis surtout qui peut permettre de grandir très vite.
Et la musique est aussi un moyen d'amener justement des personnes à rencontrer cette culture végane.
Oui, la musique et puis le côté festival, c'est-à-dire que dans un festival, vous avez quand même une liberté de pensée, vous avez c'est un moment où vous êtes vraiment dans le lâcher prise, on n'est pas du tout dans des conditions hiérarchiques, on n'est pas du tout dans un dîner où on pourrait être jugé. Là, les gens sont là pour passer un bon moment, pour échanger, et nous, ce qu'on leur propose, c'est pendant 3 jours d'écouter de la bonne musique, de se régaler, de faire des ateliers, tout ça dans un cadre totalement végane. Voilà, c'est ouvert vraiment à tout le monde, mais vous ne trouverez pas d'andouillettes, en tout cas pas d'andouillettes à base de souffrance.
Et dans ce festival également, on va réfléchir, débattre, et c'est aussi le but des MKS Room.
Exactement.
Avec Make Sense, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est ?
Oui, alors déjà Make Sense, c'est un des partenaires premiers du festival, puisque dès le début ils nous ont accompagnés.
Make Sense, qui est une association qui aide les entrepreneurs sociaux à résoudre leurs défis, à résoudre leurs problèmes, les problèmes qu'ils rencontrent dans leur activité.
Exactement, alors qui aide dans une certaine catégorie, puisque tout c'est toujours forcément dans une logique environnementale ou sociale. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. Effectivement, c'est une espèce de workshop dans lesquels n'importe qui peut participer, où on va échanger des idées, on va débattre, et le tout dans une logique très, très ludique. C'est-à-dire que c'est vraiment sans jugement. On arrive dépouillé de toute conviction, de tout a priori. Voilà, c'est vraiment le but de ces MKS Room.
Et voilà, les MKS Room qui allient cette culture à la réflexion justement autour de ces problématiques sociales. Et là, on va réfléchir autour de la consommation de viande également.
Tout à fait. Alors, Make Sense, qui, je fais le lien avec du coup Elodie de l'AVF, puisque Make Sense qui va également collaborer avec l'AVF pendant le Smile.
Association végétarienne de France, oui. D'accord, très, très bien. Et alors, justement, au-delà des enjeux environnementaux, les enjeux de santé dont on a parlé, c'est vrai qu'on voit développer un marché autour de toute cette culture végane. Et puis, on voit aussi que c'est quand même réservé tout ça plutôt à une élite, plutôt à des gens qui ont des moyens. Est-ce que ce ne serait pas un peu trop marketing, cet engouement pour le végan ? Alors, ou est-ce que ça pourrait le devenir ?
Pour répondre déjà à titre totalement informel, manger vegan, ça coûte moins cher que de manger de la viande. Un haricot a toujours coûté beaucoup moins cher que la viande. Et pour illustrer ça, on a voulu que Smile soit quasiment gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a que la partie nuit, donc la partie concert du soir qui est payante. Et en plus, on l'a voulu vraiment accessible. Mais sinon, l'extrême majorité du festival est totalement gratuite. Donc, on l'a voulu vraiment accessible. Et je pense que finalement, c'est un des défis, c'est de montrer qu'aujourd'hui, ne pas consommer de viande, c'est bon pour l'environnement, mais c'est également bon pour le porte-monnaie.
En effet, oui, Élodie.
Bah, moi, ce qu'on constate vraiment à l'AVF, c'est qu'en fait, il y a plein de façons de se nourrir quand on est végétarien ou vegan. Il y a de plus en plus d'espaces de consommation. Donc, c'est vrai qu'autrefois, c'était peut-être un marché de niche. Il y avait la communauté végétarienne, la communauté vegan, elles étaient assez réduites, en fait. Mais de plus en plus, on trouve des alternatives végétariennes et vegan absolument partout. Nous, on est très régulièrement sollicités par des grands groupes, des grandes entreprises de l'agroalimentaire qui ne sont pas du tout végétariennes et vegan, mais qui nous disent... Aidez-nous, on veut développer une offre. Donc, il y a des trucs pas chers du tout. Il y a des offres beaucoup plus gastronomiques, beaucoup plus fines. Il y a de la junk food, il y a de la food, de la healthy food. Il y a vraiment... plus la population végétarienne et végane se développe, plus il y a de manières de se nourrir en étant végétarien ou végane. On peut se nourrir de manière hyper gastronomique. Enfin, Jean-Benoît ne l'a pas mentionné, mais il va y avoir un dîner gastronomique au Smile avec un chef étoilé qui va préparer un dîner gastronomique entièrement végétal. Donc ça, c'est vraiment de la haute gastronomie, mais il y aura aussi, j'imagine, des hot dogs, des gaufres, des trucs beaucoup moins chers, beaucoup plus simples. Donc je pense qu'on peut éviter les raccourcis. Ce qui coûte cher, c'est de bien se nourrir, c'est de manger bio. Ça coûte toujours plus cher que de manger de la baguette ou des frites. Mais que ce soit vegan ou que ce soit avec de la viande, ça coûte forcément plus cher quand on mange bien.
Mais si je puis me permettre, c'est là aussi où je trouve qu'il y a un risque qu'il ne faut pas que les végétariens... un risque, c'est que effectivement il y a quand même un marché, un développement au niveau des industries agroalimentaires de cette nourriture végétale, un engouement. Et pour moi, c'est encore une fois, je me répète un peu parce que je l'ai déjà dit, mais c'est un peu se tromper de combat. Enfin, si on devient végétarien, végétalien, et qu'au final on se met à consommer des choses industrielles, pour moi c'est contre-productif, parce que finalement en termes de bien-être de l'humanité, de la planète, des êtres vivants même en général, on va dans le mur si la généralisation du végétarianisme ou du véganisme signifie le développement de grosses industries qui font du tofu synthétique en Chine pour inonder la planète. Je caricature, mais je pense qu'il y a potentiellement un risque, et effectivement pour moi le végétarisme et le véganisme va de pair avec le fait de continuer à manger bio et à manger local, même effectivement si la question du prix se pose.
Élodie Vieille-Blanchard.
Moi, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, la consommation végétarienne et végane, elle se développe partout. Elle se développe dans les magasins bio, elle se développe dans les grandes surfaces, elle se développe dans les fast-foods. Donc, je crois qu'il faut raisonner toutes choses égales par ailleurs. Si une personne qui avait l'habitude de consommer du steak haché, qui est quand même une vraie catastrophe sur le plan éthique, sur le plan environnemental, se met à consommer du steak de soja, peut-être semi-industriel, ce sera toujours mieux pour les animaux, l'impact écologique sera toujours beaucoup plus faible, ce sera mieux pour la santé aussi. Bien entendu, nous, on essaie, par exemple, dans les ateliers qu'on propose, de proposer des ateliers avec des ingrédients bio, des ingrédients locaux, de saison. C'est évidemment le mieux. Mais toute chose égale par ailleurs, si on se met à arrêter de manger de l'animal et à manger du végétal, c'est de toute façon un progrès. Donc je pense que nous, on a un domaine de compétences qui est le végétarisme et le végétalisme. Donc si Carrefour ou Fleury Michon nous contactent en nous disant on veut développer une alternative végétarienne, on va essayer de les aider à faire le mieux possible. Si nous, on organise nos propres ateliers, ils seront bio avec des produits de saison. Mais on veut pas du tout... Enfin, on pense que c'est une chance qu'il y ait un marché. Parce que s'il n'y avait pas de marché, ça ne se développerait certainement pas beaucoup. Le fait qu'il y ait des nouveaux consommateurs, pour nous, c'est quelque chose de positif. Le fait que toutes les entreprises s'y intéressent, c'est quelque chose de positif. Et si on va vers un monde plus vegan, c'est de toute façon quelque chose de bien.
Et justement, lors du festival Smile, est-ce que donc vous êtes sensible, bien sûr, à l'absence de viande et à l'absence de produits d'origine animale, on l'aura compris. Est-ce que vous faites aussi des efforts dans d'autres domaines, c'est-à-dire dans le bio, on en parlait, ou dans la réduction des déchets, parce qu'on sait que les événements comme cela sont très générateurs de déchets.
Effectivement, avec nos petits moyens, on a essayé de faire beaucoup d'efforts, notamment au niveau des pipi rooms, qui est très important.
Des toilettes sèches.
Voilà, exactement. On a également une brigade verte qui va s'occuper de nettoyer un maximum. Et puis, beaucoup de partenaires. On a choisi aussi nos partenaires dans ce cadre-là. On est allé chercher plutôt, par exemple, Enercoop que un grand fournisseur d'énergie. On est allé plutôt chercher dans le commerce équitable que dans la grande distribution. Donc oui, on a essayé, je pense que ça fait partie quand même d'une grande famille et d'une tendance qui va dans le même sens. Et c'est pas un hasard si l'offre vegan, elle se développe beaucoup dans les magasins bio.
Donc vous avez essayé de faire au mieux par rapport à l'organisation du festival dans son ensemble. C'est-à-dire que ça va aussi des musiciens, de comment ils viennent jusqu'au festival par exemple.
On maîtrise, alors sincèrement, on ne maîtrise pas du tout. On ne leur a pas demandé une fiche de quel véhicule ils ont pris. Nous, ce qu'on leur dit, c'est une fois que vous serez dans le festival, ne vous attendez pas à avoir un croque-monsieur avec un jambon pourri. Vous aurez de la bonne nourriture vegan, et c'est vraiment dans le cadre du festival où on va développer cette culture-là.
Et pour en savoir plus sur le véganisme, vous êtes donc invité au Festival Smile qui se tient vendredi, samedi et dimanche au Parc de la Villette. Et avant de dire au revoir à nos invités, nous allons nous écouter une petite musique de fin sur Radio Campus.
O mar espanha, imenso dos meus mares, ares dos desejos, desde os tempos de um sol. Aurora que me muevo, se me acabo nesta noite de ronda, quando recuerdo as tristes canciones. Nesse tardio tédio mar espanha, o mar explode, o mar me arranha. Nesse tardio tédio mar espanha, o mar explode, o mar me arranha. Nos ávidos desejos, na aridez concreta da torre, de onde lançam teus cabelos tranças longas de desprezo.
O mar explode, o mar espanha, o mar imenso dos meus mares, ares dos desejos, desde os tempos de eu só. Aurora e que me muero, que me acabo nesta noite de ronda, quando recuerdo las tristes canciones. Nesse tardio tédio mar espanha, o mar explode, o mar
ce soir avec Jean-Benoît donc du festival Smile qui se déroule ce week-end à la Villette. Nous étions aussi avec Élodie Vieille-Blanchard qui est présidente de l'association végétarienne de France et avec Lorraine Lavocat qui est journaliste aux médias reporter. Merci à tous d'être venus. On va rappeler quelques détails sur le festival donc, qui se déroule vendredi, samedi et dimanche. Les groupes de musique qui sont présents.
Ouais, on a une très belle affiche. Déjà, le festival est parrainé par la plus jolie marraine du monde, c'est Nili de Lilywood and the Pluck, qui va bien sûr être là dimanche pour un superbe DJ set. On a une partie club et également qui est samedi soir à 23h au Trabendo, et puis une grosse partie live avec Omar Soliman, Forever Pavo, Yalta Club qui passe souvent d'ailleurs sur Radio Campus, Batouk. Voilà, une super belle affiche. Qui va régaler tout le monde.
Et on vous invite tous à vous rendre sur leur site internet pour prendre vos billets. En attendant, passez une très bonne soirée sur Radio Campus et à la prochaine fois.
Dans les brumes intenses.